Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné aujourd'hui par Ringside. Salut Ringside.
Salut les amis, ça va bien?
Écoute, je vais tous me les faire. Hein.
Ouais.
Les présentateurs de Catch Up Pro, les uns après les autres, l'amiral... Raphaël, aujourd'hui c'est Ringside, parce que voilà, jusqu'à le, je sais pas, il me fait la gueule, je pense.
Ouais, bah oui, il est un peu bougon en ce moment, hein.
Ouais.
C'est, le show n'est pas assez bien pour lui, la qualité n'est pas au rendez-vous.
Voilà, mais nous, voilà, on assume et on y va, on résume quand même, même quand les choses sont pas terribles, même si celui-ci, on verra, a eu quelques, voilà, tout n'est pas à jeter. La preuve, dans cet épisode de SmackDown Live, Big E ne partage pas sa nourriture. Bobby Roode lèche le cul de John Cena et Randy Orton. Kevin Owens et Sami Zayn n'aiment pas les plans à 5. Accrochez-vous bien, c'est Dolph Ziggler qui ouvre un épisode de SmackDown. Et oui, on est bien en 2018, c'est incroyable. Alors, il entre d'abord sans sa musique, hein, avec ce petit effet là de disque rayé. Puis en fait, si, après la musique revient. Donc c'est pas très clair, hein, c'est quoi exactement son générique à Dolph Ziggler.
Rien n'est clair avec Dolph Ziggler en ce moment. Hein.
Donc il arrive sur le ring, car ce soir il a un match face au Baron. Et oui, on l'avait appris sur les réseaux sociaux, je crois, c'est Shane qui a dû encore tweeter à 23h après avoir un peu bu. Mmh. Qui aura un match entre Dolph Ziggler et le Baron, et le gagnant irait rejoindre l'affiche du main event pour Fastlane. Alors, évidemment, ça fait suite, hein, aux agissements de Daniel Bryan, hein, qui est incontrôlable, et du coup Shane McMahon c'est la surenchère, hein, dit bah, si c'est comme ça, moi aussi je me book des matchs pour changer l'affiche et la rendre plus attrayante. Alors la musique du Baron a un peu plus de mal à se lancer. Au début, on se dit, oh, petite erreur technique. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas eu vraiment une petite erreur technique. Après, la musique repart et on a une petite séquence backstage, caméra à la main. Il y a toujours des caméramans, hein, qui traînent dans les couloirs. Hein. Faites attention à ce que vous faites. Et c'est le Baron qui est passé à tabac par les Canadiens, Kevin Owens et Sami Zayn. Alors, non sans riposter. C'est rare, hein, qu'on se fait passer à tabac et qu'on riposte. Le Baron essaye quand même de s'en sortir. Mais rien n'y fait. Puis, Les rapaces, hein, fondent ensuite sur Dolph Ziggler, donc on revient sur le ring, ils le prennent en tenaille, donc avec Kevin Owens qui passe d'un côté du public, dans la fosse là, hein, et Sami Zayn de l'autre, Dolph Ziggler, voilà, qui se dit merde, qu'est-ce qui se passe, alors il part d'un côté, alors petite anecdote sympa, je sais pas si vous avez remarqué, mais en plus j'ai vu le gif tourner un peu plus tard, Dolph Ziggler a sauvé la vie d'une petite fille.
Ouais, exactement.
Je l'ai vu. C'était beau, hein, c'était beau, parce que Dolph Ziggler va sur un côté vers, en direction de Kevin Owens ou Sami Zayn, un des deux. Et il y a une petite fille qui sort du public, hein, c'est les places qui sont dans la fosse, donc on peut facilement sortir. Souvent là où il y a de la bagarre ringside, c'est par là où ça se passe. Il y a une petite fille, un petit peu curieuse, c'est normal, hein, elle sent qu'il y a de l'agitation, qui s'écarte de sa chaise et qui fait un ou deux mètres. Et Dolph Ziggler, donc, qui court et... il attrape la petite fille, hop, il la soulève et il la pose à côté de sa maman en lui disant « Attention, surveillez vos enfants, madame. »
Ici, il y a de la bagarre.
Ici, il y a de la bagarre. Ce n'est pas un endroit pour les enfants, évidemment.
Je pense qu'elle se souviendra de sa soirée, hein, la petite fille.
Ah ouais, c'est la nouvelle, peut-être la nouvelle Miss Girl. Hein. Peut-être qu'on la reverra dans les montages vidéo de la WWE. Bon, Dolph Ziggler qui ne peut pas faire grand-chose, hein, face aux deux zigotos, il se prend à un moment donné un énorme kick de Sami Zayn, hein, il est exécuté, hein, et à la fin, il est dans Dolph Ziggler et comme sa carrière, laissé pour mort, voilà, et c'est ainsi que l'introduction se termine. Il y aura donc tout un suivi, c'est un peu notre fil rouge, hein, de ce show, mais déjà, qu'est-ce que tu as pensé? Rien que le fait que Dolph Ziggler ouvre le show, qu'est-ce qui se passe?
Effectivement, Dolph Ziggler, c'est toujours un peu le malaise quand il débarque en ce moment. Il est jamais au bon endroit au bon moment. Il a pas lâché son gimmick de la musique là qui s'arrête. Donc voilà, toute cette histoire autour de Dolph Ziggler, le titre US, bon, tout ça s'est passé à la trappe, visiblement.
Ouais.
Là, il est. J'ai l'impression qu'il y a un turn de son côté.
Ouais, hein, ça, je suis d'accord. Ça a raison. Il faut qu'on en parle parce que c'est une espèce de face turn. Alors, il est assez coutumier du fait, hein, les face turns ouais. En cours de show. Alors clairement après on verra que le Baron aussi a un peu ils ont tous les deux joué le rôle de face,
ouais.
Puisque tu te retrouves face à Kevin Owens et Sami Zayn, tu te retrouves voilà porté par la foule. Mais c'est vrai que à la fin de l'épisode, Dolph Ziggler il apparaîtra en face triomphant, et là dès l'intro, enfin dès le début de cet épisode effectivement, alors qu'en plus il sauve une petite fille,
ouais carrément,
à se demander là, si c'était pas calculé.
Ouais, le début du match, le début du match de l'altercation, quand il passe par la foule et tout, c'est vraiment, ça fait vraiment babyface, hein. C'est vraiment le héros qui a pas peur et qui en plus qui est malin. Donc théoriquement c'est super sur toute la ligne, sauf que c'est dommage parce que c'est Dolph Ziggler, quoi. Alors ça peut relancer sa carrière s'il se décide à nous sortir un très bon match en pay-per-view. On sait qu'il a re-signé, on sait qu'il a eu à peu près tout ce qu'il voulait. C'est un petit peu un nouveau départ qui s'offre à lui, même si je pense qu'il avait quand même déjà un planning allégé, hein, puisqu'il disparaissait de temps en temps. On le voyait faire d'autres trucs un peu partout. Il a sa carrière de stand-up comédienne à côté, donc je pense que c'est la suite logique de sa carrière. Je pense qu'il a plutôt bien vu à la WWE, puis qu'il n'a pas d'ambition non plus... interplanétaire de devenir le top guy de la compagnie. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le traitement infligé à Baron Corbin, qui se fait molester dans les backstage. D'habitude, c'est plutôt lui qui agresse les gens. Hein. Souvent, quand il violait Kalisto contre les murs des vestiaires.
Un pauvre malentendu,
c'est ça, exactement.
Il se fait bouler.
Ouais. Le revoir revenir comme ça sur la rampe, aussi, t'es un babyface triomphant. Alors, est-ce que c'est un alignement qui vient de changer ou est-ce que c'était juste pour cette émission-là? Ça, on peut pas le dire de suite.
Pour l'instant, je pense qu'on peut simplement dire que c'est un coup d'un soir.
Ouais.
Le contexte fait qu'effectivement, ils avaient le rôle de babyface. Comme tu l'as dit, il est revenu après une fois de plus pour en redécoudre avec les autres zigotos. Donc effectivement, c'est vrai que c'était assez étonnant, mais pas inintéressant.
Ouais.
Dolph Ziggler, alors je sais plus si c'est à ce moment-là ou un peu plus tard, c'est un peu plus tard, parce qu'ils vont quand même avoir leur match, hein, Dolph Ziggler et Kevin Owens, puisque backstage, on a Shane hein, qui est remonté évidemment par tout ce qui se passe. Il nous balance d'ailleurs la dernière surenchère de la direction, c'est ce que je vous ai signalé. Mais là, ça se transforme du coup Ziggler et Baron Corbin qui n'ont pas eu leur match. Et ben ils vont affronter Kevin Owens et Sami Zayn en match solo. Et chaque gagnant, donc si l'un des deux est gagnant ou les deux sont gagnants, ils rejoindront donc le title match. Donc on peut passer d'une triple frite à un fatal five way, je ne sais plus si c'est une dénomination spéciale, un match à 5. Et pire encore, hein, si ils interviennent l'un l'autre hein, pour s'entraider par exemple, ils seront eux disqualifiés. Donc ça peut même être pire. On pourrait même se retrouver dans la configuration où ils interviennent. Mais il gagne quand même le match, du coup, AJ Styles est tout seul.
Voilà.
Ce qui aurait pu s'arranger AJ Styles, qui n'est pas là ce soir, non, on ne l'a pas vu. Portée disparue, puisque...
Alors, c'est le coup classique de l'arroseur arrosé, hein, c'est-à-dire qu'ils viennent pour éliminer la concurrence, puis ils se retrouvent avec deux fois plus de concurrence que prévu.
Classique.
Classico.
Bon, on garde les deux matchs si tu veux bien pour la fin du coup.
Oui.
Les deux matchs donc dont on vient de parler.
Il va pas nous rester grand chose.
Ouais. Effectivement, division féminine. Sarah Logan affronte Charlotte. Hein, Charlotte qui a décidé de tuer les trois membres du Riot Squad les unes après les autres. Elle s'est débarrassée de Liv Morgan, si j'ai dit bien ça. Ouais, Liv Morgan. La semaine dernière. Cette fois-ci, c'est au tour de celle qui vit dans les bois, hein, Sarah Logan, la bûcheronne, qui ne sort
de la guébite,
c'est ça, et qui sort des bois seulement pour aller travailler entre les cordes. Charlotte qui est rejoint par Becky Lynch, hashtag j'ai retrouvé mon badge, et Naomi. Voilà, donc les deux filles, il va rien se passer vraiment, pas forcément être beaucoup impliquées dans ce qui va se passer. Hein. Becky Lynch et Naomi sont juste venues rappeler qu'elles sont toutes copines, les trois. On a un match, on a surtout un duel de claques, de coups de coude, des gros high knees là. Le cardio est pas ouf, hein. Les filles ont un petit peu de mal quand même à suivre la cadence. Pas mal de near falls, et encore une fois de plus, à une Charlotte dans la galère, hein, jusqu'au Natural Selection, qui plante Logan, alors à la verticale. Hein. Ah, Sarah Logan, elle était
Ouais.
raide.
Fait
Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Bon, c'était un bon petit match, j'ai trouvé, par rapport à ce qu'on nous proposait un peu les semaines dernières. On part de loin. Bon, ça manque toujours de vitesse, hein. Le cardio, elles étaient. Enfin, je sais pas si c'était juste Charlotte qui overselait, mais elles avaient l'air épuisées toutes les deux au bout de 3 minutes. Elles se traînaient un petit peu là, les catcheuses, mais on voyait qu'elles avaient un peu plus travaillé le match. Enfin, il y avait des spots un peu plus intéressants que la semaine dernière. Et Charlotte, du coup, toujours pas de promo, hein, de la championne. Elle se contente d'aller voir les commentateurs pour dire, et voilà, une de plus, il reste plus qu'une. Et ça se voit sur le visage de Ruby Riott qu'elle a peur d'être la prochaine.
C'est ça. Et du coup, la semaine prochaine, logiquement, un 3 contre 3. Hein? Parce que
C'est
il
ça
en
qui.
reste une sur la liste, mais on va faire un 3 contre
Non,
3.
arrête, tu rigoles? C'est ce qu'ils ont annoncé?
Ah ouais.
Ah.
C'est officiel. Enfin,
Bon.
ça peut changer d'ici là, hein, mais c'est ce qui est annoncé pour la semaine prochaine. Hein, donc le Becky Lynch, Naomi et Charlotte contre le Riot Squad. Ouais, le match n'était pas trop mal, mais alors j'ai trouvé que Charlotte, elle avait un peu du mal à vendre les souplesses de Sarah Logan, là, qui du coup paraissait pas très forte. Ça n'a pas trop mis en valeur la nouvelle. Ben j'avais entendu tellement de bien de Sarah Logan
Bah
avant
écoute,
qu'elle débarque à la WWE.
moi j'ai vu son match au Mae Young classique, bah pour la peine, ça m'en avait bouché un coin, c'était incroyable, c'était une de mes, on va dire, révélations du tournoi. Pourtant elle a été éliminée dès le premier tour, mais il y avait de l'impact, il y avait des prises, c'était original, il y avait plein de soumissions, enfin c'était super quoi, et là effectivement, tout ça s'efface. C'est vrai que
Va falloir faire mieux pour qu'elle soit un petit peu relevant, comme on dit, hein,
Ouais.
qu'elle ait un peu d'intérêt dans le roster, parce que là, c'était pas bien fameux quand même. Ben un peu comme tout le Riot Squad, hein, toutes celles qui sont arrivées. Ouais, voilà, on va passer le temps de là-dessus, mais les filles, ça va pas bien loin, hein, je veux dire, toute cette intrigue autour du Riot Squad, ça, c'est pas du tout intéressant. Elles sont pas très menaçantes. Ça fait plouf, quoi, ça fait pchit.
Ça fait bzou.
Voilà, ouais, donc on est toujours assez bas, hein, au niveau de la qualité pour ce qui est des filles.
Ouais. On est
Il faudra un petit peu.
dans la
Voilà.
mélasse. Allez.
Bon, il y aura peut-être un électrochoc pour le début de la route pour Mania. Et puis voilà quoi.
Ouais. C'est vrai que on parle beaucoup par rapport à Mania. Quels vont être les plans pour la championne? Ça va pas mal jouer, ne serait-ce que déjà pour le prestige de la ceinture. Qui va aller la chercher vraiment à Mania?
Ah, il se peut que Asuka choisisse d'affronter Charlotte, hein, donc ça
Il y
pourrait.
a de grandes chances, oui, puisque si je dis pas de bêtises, comment notre amie Ronda Rousey signe à Raw en fait.
Ouais,
Parce
ouais,
que il y
ouais,
a
ouais.
eu, bah justement, il y a eu une petite vidéo pendant cet épisode de SmackDown où on annonçait la signature de contrat de Ronda Rousey à Elimination Chamber.
C'est ça.
Et c'est Corey Graves qui stipule, qui raconte, qui dit que c'est pour signer à Raw, quoi. Donc,
Ouais. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent. Là, ils vont arrêter les pay-per-view séparés, apparemment.
qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai vu ça.
Ouais, un peu après WrestleMania, je sais plus à partir de quel pay-per-view précisément. Donc, parce qu'il y aura moins de toute façon de pay-per-view, il n'y en aura plus qu'un par mois, je crois. Si je dis pas de bêtises, ce sera un des pay-per-view mixtes. Donc, ça va peut-être rebattre les cartes au niveau de la séparation des brands, quelque part aussi. Curieux de voir ce que ça passe. Alors, il y aura moins de spots, forcément, pour se mettre en valeur. Il paraît qu'ils vont peut-être pas faire de défense de titre à chaque pay-per-view, histoire de pouvoir avoir des matchs qui sont liés aux intrigues un peu annexes, et puis mettre en avant un peu tout le monde. Maintenant, tout ça, c'est des projets, des plans sur la comète, comme on dit.
Horizon 2020.
Quand, voilà, quand ça se frotte à la réalité et puis qu'ils sont à la bourre pour organiser leur truc, généralement, on revient aux vieilles recettes. Voilà, donc c'est un peu, on est un peu dans l'attente, toujours, c'est chez les filles.
Bon, allez, un autre pour lequel on est dans l'attente, c'est Bobby Roode. On attend qu'il éclose, qu'il se matérialise tel le grand qu'il est censé être, hein, glorieux, glorieux. Et pour l'instant, voilà, son entrée dans Main Roster n'est pas si glorieuse que ça, quand bien même il a autour des hanches la prestigieuse ceinture de champion des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, il en profite pour rendre hommage à John Cena, legacy de John Cena, qui a porté fièrement, hein, justement, cette ceinture, lui aussi, et qui avait lancé une belle tradition, le Open Challenge. C'est vrai que c'était bien, c'est une grande époque. J'ai l'impression que maintenant, tous les faces qui ont cette ceinture se doivent de lancer des Open Challenge.
Qu'il ne respecte jamais d'ailleurs.
Qu'il ne respecte jamais. Il se dit, ok, je lance un open challenge, mais je veux que ça soit toi qui y vienne. Ou alors, ok, mais ce sera la semaine prochaine. Je crois que c'était Justaz qui avait du mal à faire vraiment son open challenge.
Il n'a fait jamais fait.
Hein. Et le mec, jamais vraiment. C'est sur invitation. C'est des portes ouvertes, mais sur invitation. Et donc, du coup, il interpelle Randy Orton, évidemment, et Randy Orton qui est coupable d'avoir porté un RKO out of nowhere, hein, il le précise bien, c'est parti maintenant du vocabulaire des catcheurs, la semaine passée. Randy Orton qui accepte, hein, qui donc s'approche, qui se rend sur le ring. Et là, ils commencent à discuter et ils sont interrompus par Jinder Mahal qui vient de mettre de l'eau dans le gaz puisque voilà, les deux se font un peu des politesses.
Carrément. Hein.
Ouais. Ils se font encore des politesses. Oui, toi aussi, je t'aime bien, Randy Orton. Voilà, c'est un honneur. Je suis très honoré.
Beaucoup de respect. Quelle carrière.
Ouais, c'est. Voilà, est-ce que je peux te lécher à un endroit du corps peut-être ou je sais pas, ça te gratoude.
Voilà, magnifique coupe de cheveux.
Voilà, un petit peu malheureux. C'est voilà ce qui arrive quand vous êtes un champion qui a fait sa carrière à la TNA. On vous demande de vous prosterner devant Randy Orton et John Cena. Jinder Mahal, du coup, qui se fait un petit peu la voix des suiveurs qui arrivent et qui vient mettre de l'eau dans le gaz. Il se moque d'ailleurs du classement. Hein. On avait parlé la semaine dernière, on disait voilà, le classement servirait peut-être à alimenter la rivalité entre Orton et Bobby Roode. Et c'est Jinder Mahal qui s'en charge, qui a écouté Catch-Up, hein, vu qu'il n'avait pas beaucoup de programmes en ce moment. Il a le temps d'écouter des podcasts dans la voiture. Donc il se moque du classement. Il dit ouais, voilà, grosso modo, hein, Bobby Roode est 5e, Randy Orton est seulement 9e, lui qui est 13 fois champion du monde. The Evolution, ah, c'est du name dropping. T'as été dans l'évolution, t'as été dans
Legacy,
voilà.
13 fois champion.
13 fois champion, Money in the Bank, le Royal Rumble, t'es beau gosse. T'es grand.
Voilà, il y a eu ce scandale avec les putes dans un hôtel.
Voilà, l'histoire du caca dans le sac, c'était il y a longtemps. Donc c'est bon, tout est pardonné.
Et puis là, bien cadré Randy Orton, on sait qui c'est.
Donc il lui faut aussi des politesses, mais voilà, pas pour le même dessin. Il dit bah voilà, en plus tu te fais souffler, tout ça pour te faire souffler la place par un petit jeune qui doit être un peu plus vieux évidemment, probablement plus vieux que Randy Orton, mais bon c'est pas grave. Orton dit tu sais quoi, bah moi j'en ai rien à foutre du classement. Donc là Orton parle aussi pour nous, hein, c'est assez incroyable, tous ces gens qui nous suivent sur Twitter. Et Jinder ne mord pas, hein, même si lui n'est pas dans le même classement, comme le précise Bobby Roode, qui a beaucoup de respect pour Randy Orton, il faut le rappeler. même s'il est 9e, parce que tu veux savoir pourquoi t'es 9e, c'est peut-être parce que les gens en ont marre de se prendre des RKO out of nowhere, lui explique Bobby Roode. C'est vrai, ça peut se comprendre. Et là, Randy Orton, il dit, ah ouais, eh ben, si c'est comme ça, laisse-moi te dire que, et là, RKO out of nowhere sur un des frangins des Singh Brothers, ça part en castagne, pour au final que Jinder dispose des deux babyface. Et voilà, une triplette qui vient d'être construite autour du titre US. On a utilisé le top 10 list, on espère qu'on ne le reverra plus.
Voilà.
Voilà, déjà, ça, c'est
fait. Maintenant, on a compris à quoi ça servait.
Et ben là, on fera un top 20.
Comme ça, tout le monde sera content, parce que sinon, ça crée de l'animosité. Ouais, donc tout ça, cette histoire de liste, là, c'est juste pour un petit ressort scénaristique. Enfin, j'espère qu'ils vont plus l'utiliser, hein, comme tu dis, parce que ça sert à rien du tout. Tout ce travail pour mettre un petit peu, bah, recadrer un peu Randy Orton comme la top star qu'il est. Effectivement, le pauvre Bobby Roode qui est obligé de passer la brosse à reluire là et qui joue le gentil champion ami de ses ennemis, ouais. Ça c'est vraiment insupportable.
Là ils vont très très loin dans le Bobby Roode niais, souriant, obligé d'être corpo jusqu'au bout.
Ouais, ça fonctionne pas ça hein, quand tu fais parler un champion gentil déjà alors qu'il se tape la ceinture que Dolph Ziggler ne veut pas. En plus, il est obligé de faire des courbettes devant ses adversaires. Ça va être chaud pour lui. Par contre, Jinder Mahal, tranquille, bien mis en valeur. Il a fait la promo qu'il fallait. Là, pour le coup, il est à sa place dans la course au titre US, donc il me dérange pas trop. Il a l'air toujours d'être aussi nul dans le ring, mais bon, ça.
Ah, le mec, il a fait un move.
C'était pas bon.
Aussi nul dans le ring. Le mec, il a mis une claque, il a porté son câlin. Boum, la sentence est tombée. Toujours aussi nul.
Voilà, ça nous aidera pas, mais bon. Voilà, non, c'est plutôt bon. C'est dommage pour Bobby Roode. C'est plutôt bien amené. J'aurais peut-être préféré avoir Rousseff à la place de Mahal dans l'histoire, mais j'aurais préféré voilà, que Mahal gagne le tournoi et qu'il se fasse battre par Bobby Roode là en finale, puis qu'on ait Rousseff pour ce trio là. Mais bon, ça m'intéresse bien de voir Bobby Roode face à Orton. Un triple threat, ça va ramener un petit peu de rythme dans le match. Donc c'est plutôt bien booké. Dommage un peu pour Bobby Roode, mais après c'est tellement difficile de revenir de cette histoire avec Ziggler qui a acheté la ceinture par terre, que malheureusement on peut pas s'attendre à grand chose non plus. Ça fait le job, je trouve.
Ouais, il détruit tout sur son passage. Dolph Ziggler ne laisse qu'un champ de ruines. Et le pauvre Bobby Roode qu'on envoie au front pour aller tenter de remonter tout ça. C'est sûr que là, c'est un sacré exercice pour lui. Là, 2018, en tout cas, le premier Q1.
Ouais.
Q1 et Q2 vont être assez difficiles pour lui. On sent que il joue vraiment... Il va réciter exactement ce qu'on lui dit de faire. On a vraiment l'impression qu'il a... On va lui dire, ça, c'est ton texte. Tu dois mettre over Randy Orton. Et il va pas sortir un poil de cul de ce qu'on lui a demandé de faire. Et ce qui contribue largement à ce côté très lisse du personnage. Presque mannequin de cire qui récite ses textes, quoi. Presque un robot, toi.
Bah, ils ont toujours du mal avec les champions face et ils sont plus doués pour écrire des heels, hein, tous ces scénaristes là de la WWE. Puis on sait que c'est toujours plus fun pour les catcheurs de jouer des heels, des méchants. Hein. Maintenant, il fait le job. C'est toujours un peu effectivement embêtant quand on sort pas du script, qu'on reste vraiment à réciter ce qu'il faut réciter. Maintenant, s'il arrive à survivre à tout ça, Bobby Roode, s'il reste toujours over après cette rivalité-là à plusieurs, il y a moyen qu'il continue à faire de grandes choses. Mais il faudrait quand même penser à le faire passer du côté des méchants, hein, parce qu'il était quand même beaucoup plus, beaucoup plus pertinent quand il était méchant. Bon, on va pas rentrer dans l'affrontement NXT roster principal. Mais ils avaient quand même construit un bon top heel assez costaud, ce qui était bizarre d'ailleurs à NXT, parce qu'il ne trichait jamais finalement. Bobby Roode, il gagnait toujours ses matchs clean, alors qu'il était hyper arrogant, etc. Et au final, ça fonctionnait plutôt bien, c'était un peu le heel que tout le monde réclame. Bon, maintenant, il va falloir qu'il survive à ce passage en babyface assez terne.
Bon, allez, on va des choses un peu moins sérieuses, puisque le New Day vient célébrer Mardi Gras, ou plutôt le Pancake Tuesday. Ce soir, on va tenter de battre le record de pancakes ingurgités. C'est Biggie qui s'y colle, mais le challenge tourne court quand Gable et Benjamin les interrompent. Gable nous avoue hein, qu'il ne s'imaginait pas, lorsqu'il s'entraînait là, pour les JO en mode olympique, hein, c'était un lutteur, qu'il finirait face à ce triste spectacle. On peut le comprendre, effectivement. L'Inoue hein, sont de bien tristes compétiteurs, contrairement à ce qu'ils croient. Même si c'est vrai, comme le rappelle Xavier Woods, ils ont le plus long règne tag team de la WWE. La provoque continue quand Gable et Benjamin s'en prennent au pancake eux-mêmes, plongeant Biggie hein, dans une transe transcendantale. Il n'est pas content, Biggie ne partage pas la nourriture, l'arbitre est obligé d'intervenir hein, pour séparer tout ce beau monde. Et du coup, il y a match. Il y a match. C'est un match. Je ne sais même plus si c'est du tag team ou si c'est du 1v1. Du tag team, puisque l'issue du match se joue une fois de plus sur une incompétence arbitrale. Puisque Benjamin se fait sortir par l'arbitre alors qu'il est l'homme légal. Et du coup, les New Day en ont profité pour placer leur Midnight Hour qui sonne la fin du match. Et la victoire des Trublions de la Licorne. Gable, alors ça y est, est-ce que Gable a son personnage?
Oui. Gable et son petit hush là.
Hush, chuch,
Hush, chuch.
chuch. Chut, taisez-vous. Voilà. C'est bon, il l'a? Parce que je faisais
Là.
partie de ceux qui, si je me dis pas de bêtises, trouvaient qu'il n'avait pas encore son personnage.
Oui, non, ça se construit doucement, mais sûrement. On voit qu'il est motivé quand même, Gable, pour arriver à quelque chose. Il amène toujours un petit peu des trucs pour construire justement son personnage. Il avait sa petite serviette dans le temps, là, son petit slogan, là, Ready and Gable.
Moi, je me demande
Comment il fait son
pourquoi il ne
paillette?
gagne ces gimmicks-là, la coup de la serviette. Alors, c'est vrai que c'était qu'il était en tag team, mais peu importe, il l'est toujours. Pourquoi ces gimmicks-là ne durent pas? À quel moment les mecs se disent, oh, le coup de la serviette, ça marchera plus, ça marche plus. Alors que si, ça marche. Et puis, ça fait un goodies pour le merchandising.
Ouais, bah soit on lui a dit maintenant t'arrêtes. S'il est passé, il dit ta serviette, maintenant
Bon,
ça
maintenant,
va aller.
c'est fini.
Si je te revois avec dans le ring, c'est fini pour toi. Soit tout simplement, pour eux, ça fonctionnait pas assez bien, et puis il était temps de passer à autre chose. Mais il y a toujours une volonté quand même de se remettre en question,
C'est ça.
de se renouveler quand tu es un catcheur, surtout dans la mid-card, pour rester relevant, comme on dit,
Moi, on le voit
sinon
bien avec les New Day qui sont maintenant obsédés par les pancakes. Voilà, c'est
Voilà. Et Dieu sait que eux, ils pourraient changer de ressort comique parce que ça a déjà fait son temps, hein, l'histoire des pancakes. Moi, je trouve ça insupportable.
Là, on
Et pour
revient
ce direct, c'est
à la version du New Day avant leur rivalité avec les Ouzo, où ils étaient juste en mode papy rigolard. On sort de notre long règne là et on vient juste faire les trublions, les batailles de bouffe.
Ouais, c'est pas ce que j'aime le plus chez New Day. Tout le truc avec les pancakes, je trouve ça indigeste. Hein? T'as vu le.
Oui, c'est bravo. Tu m'as pris par surprise. Là,
Ouais.
j'ai eu du mal à digérer ce jeu de mots, effectivement.
Voilà, bon, bah, je sais pas si ça va aider beaucoup Shelton Benjamin et le pauvre Chad Gable dans leur route vers la gloire. Visiblement, les stars de la division tag team, c'est les Ouzo, hein. Je pense que tout est fait pour les mettre en valeur. Le reste, c'est là pour combler du temps d'antenne, j'ai l'impression un petit peu. Les New Day, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire encore à Mania? Ils vont être encore les hôtes de Mania ou ils n'ont jamais droit à un match quasiment, ou alors c'est des matchs anecdotiques. C'est pas le passage qui m'a le plus enthousiasmé dans l'émission. Le match, c'était un match classique du New Day où en plus ils gagnent par filouterie alors que ce sont les gentils, quoi. C'est un peu les méchants qui se sont fait biaiser dans l'histoire.
Une fois de plus, hein, Gable et
Ouais.
Benjamin, je serais pas étonné qu'ils se retrouvent un peu, qu'ils aient retoqué à la porte de Daniel Bryan qui adore Gable.
Ouais.
Ah voilà, hein, tous
Mais c'est.
ces gens qui pourraient être sous la coupe de Daniel Bryan.
C'est ça, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux pour monter une équipe de méchants, quoi. Le fait qu'il soit fait fouer.
Les mecs, c'est censé être les pires heals quasiment de la division, les gros heals, bon, à part les Bludgeon Brothers, on parlera, mais eux, ils disent pas grand-chose, à part casser des télés. C'est censé être les pires heals, et à chaque fois qu'ils perdent, c'est parce qu'ils se sont fait flouer, quoi, soit par cette grosse bite d'arbitre.
Voilà.
Soit par leurs opposants eux-mêmes, ou alors une décision de la direction contestable. C'est pas mal pour alimenter la haine que peut avoir un heel, toi, mais quand, au bout d'un moment, ça devient...
Maintenant, il faut qu'ils viennent, qu'ils attaquent par derrière, qu'ils cassent des genoux et les trucs comme ça, tu vois, qu'on les voit vraiment dangereux. Sinon, ça va, on reste dans un truc tiède et puis vraiment, vraiment anecdotique. Puis comme les New Day, ils sont un peu cramés quand même, dans le sens où on les voit toutes les semaines, tout le temps. On n'est pas très enthousiasmé quand ils sont là. Pour nous, c'est pas terrible. Après, je pense que ça marche peut-être auprès des enfants, donc il faut pas.
Oui, après, tout fonctionne. Ceux qui restent en vie à SmackDown, hein, parce que quand t'es un gamin, tu peux vite te faire écraser par un Kevin Owens qui te fonce dessus.
Il aurait sauvé le gosse. Hein.
Ah, ça, non. Allez, juste là pour en terminer avec la division tag team, je le signalais, effectivement, on a droit à une grosse promo des Usos, là, ils sont dans les couloirs, là, devant des grilles, etc., et c'est leur promo, et là, boum, l'écran se pète, et en fait, c'était les frères Marteau qui viennent justement de péter la télé sur laquelle, en fait, la caméra filmait la télé.
Ouais.
C'était pas mal fait, c'était assez surprenant, et puis après on les voyait mettre leur marteau là sur l'épaule et puis ils marchent. Luke Harper, il manque de se marrer comme une baleine à chaque fois. Voilà, la rivalité continue en tout cas entre les deux, culminer probablement lors du prochain pay-per-view. On va attaquer le gros du panier, le haut du panier avec nos deux matchs, hein. Le premier, c'était le Baron contre le Kevin. Ça s'envoie dans les barricades, dans les escaliers. Bah, évidemment, le Baron n'est pas content d'avoir été bully, lui, qui d'habitude, comme tu le dis, c'est lui qui violente les autres. Donc ça se balance dans les escaliers, dans les barricades. Kevin Owens passe son cannonball. Le Baron, il fait ses grosses lariat ou close line, on en a parlé la dernière fois. Deep Six, un énorme Deep Six par là. Des chants, j'ai eu l'impression, tu vas me dire, parce qu'on n'entend jamais les mêmes réactions de la foule. Il y en a qui vous disent on n'entend pas la foule, d'autres qui disent on attend très bien la foule. J'avais l'impression ce moment-là d'entendre des chants Baron ou Corbin, quoi. Donc c'est vraiment ce côté, le temps d'un soir, on avait les deux des pires heels qui étaient portés par la foule face à tant de jolitude. Hein. C'est vrai qu'il est beau, le Baron, on a envie de l'aimer, même s'il est méchant avec les autres. Surtout les
puis on aime petits. Bien être contre Kevin Owens quand même.
Ouais, ça marche bien, ils sont très forts. Hein. Kevin, là ils arrivent, t'arrives quand même à faire porter la foule, enfin que la foule porte les deux. De heal, quoi, le Baron qui crache à la gueule des spectateurs et Dolph Ziggler qui fait la même face à deux autres heals qui sont des gros chouchous quand même du public même quand ils sont les pires crapules arrivent à faire rire et à mettre la partie du public dans la poche et là ils ont réussi à les faire tourner le temps d'un soir c'était vraiment enfin c'était bien joué. Alors du coup, un Kevin Owens, au final, il ne peut que s'incliner face à une telle prestation, un end of days. Il fallait le placer hein, sur Kevin Owens.
Pas facile, hein.
On l'avait vu que c'était... ça passe, ouais, c'est ça. Ça passe limite. Le Baron a même souri, dis donc. On a vu un léger sourire sur le visage du Baron. Ouais, mais il est content, il va quand même aller rejoindre un match pour le titre.
Voilà,
donc 1 sur 2.
Bravo le Baron.
1 sur 2.
1 sur 2, effectivement. Ça fonctionne mieux, je trouve, le Baron quand il est en face. Hein,
merde. on veut pas foutre le bordel, hein, mais bon.
Comme j'avais déjà trouvé qu'il avait, quand il avait affronté le Miz, son moveset, c'est beaucoup plus. Ça fonctionne beaucoup mieux quand il est en alignement de gentil, comme ça, avec ses gros power moves, comme ça. Il encaisse, puis il arrive à placer ses gros mouvements. Puis comme il est un peu badass, qui respecte pas l'autorité, qui fait un peu ce qu'il veut, ils le font chuiner un petit peu depuis un bon moment, mais ça pourrait être, il pourrait tenter le coup effectivement de le voir quelques semaines, qu'est-ce que ça donne en babyface. puisqu'il n'a pas réussi à convaincre totalement, même si c'est un heel qui se fait réagir le public. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend encore de plus du Baron.
Tout reste à faire avec le Baron.
C'est ça, hein, il a quand même plutôt assuré sur pas mal de matchs. Souvent sur les triple threats, il est souvent assez bon.
Je pense que ce n'est pas anodin. Ils envoient le Baron dans un match à plusieurs pour garantir la sécurité du match. Tu vois, être sûr que ça va être un très bon match. Une fois que tu mets le Baron dans un match à plusieurs, ce sera au moins un match 4 étoiles. Ça, c'est garanti.
C'est ça, exactement. C'est cette petite touche en plus, ce petit élément qui fait la différence. Donc plutôt satisfait. Après, bon, comme il n'est pas toujours constant, on va pas trop s'emballer. Mais moi, pour le coup, encore une fois, il a fait le taf. Plutôt satisfait cette semaine du Baron. Un bon point.
Un bon point pour le Baron Corbin. Le second match opposé, du coup, hein, vous l'avez deviné, Dolph Ziggler à Sami Zayn. C'est notre main event. On a donc des super kicks, des contres, des near falls, des mecs qui ont mangé du lion. Ils ont la patate. Dolph Ziggler est over as fuck. Le public en peut plus. Il est beau, il a les cheveux blonds qui volent. Des chants « This is awesome » s'élèvent lors du match. Sami Zayn charge le hell of a kick, mais c'est le pied de Ziggler, le super kick de Ziggler qui le touche. Alors après qu'il l'ait bien ramonné avant quand même, hein, c'est pas juste un super kick. Pour le compte de 3 final, et là on a une image complètement improbable, l'image finale du show quand même, pour vous dire qu'est-ce qui se passe. De Ziggler monte sur la table, il est acclamé par la foule. Il y a un plan où il est presque en train de pointer du doigt le sigle WrestleMania. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est du grand n'importe quoi. De Ziggler. En fait, ce que je trouve, c'est que si tu mets de côté le côté, mais ils font n'importe quoi avec lui, tu te dis, en fait, c'est le gimmick de ce mec. Dolph Ziggler, c'est ça, ce mec c'est du n'importe quoi. C'est un mec qui est fait, et il le dit pendant cette interview, il l'a encore redit là parce que t'avais René Young qui l'interviewait backstage, où il nous a ressorti la même promo qu'il ressort tous les ans en disant que c'est lui, il brille dans le ring, c'est le meilleur entre les cordes, etc. Donc une promo à ce moment-là en mode babyface, hein. Là c'était en dehors de tout contexte du match qui pouvait le porter, effectivement il arrive à retourner la foule et tout. Donc là déjà tu te dis, tiens, enfin... Ok, ils lui ont dit, maintenant t'es babyface. Mais le mec, c'est ça, il dit, je vis pour les moments, les occasions manquées, mais je m'accroche toujours, je vais briller, je vais être celui qui brille dans le match, je vais décrocher. Il va toujours à un moment donné décrocher quand même un titre. Avec lui, c'est le show-off, quoi. Hein, donc c'est garanti spectacle. Et au final, c'est ça. Le mec, le titre US qu'il a fait, effectivement, il a gagné le titre US comme il nous l'avait dit. Et à la fin, il l'a pris, il l'a jeté par terre. Voilà. Dit, vous voulez quelque chose dont vous allez vous souvenir? Hop. Et effectivement, tout le monde en a parlé. Alors, beaucoup disaient, ouais, c'est du grand n'importe quoi, on a rien à foutre, j'en ai plus rien à foutre de Ziggler. Ce qui n'était pas faux. Mais il l'a quand même fait. Et après, il revient en mode YOLO, 30e du Royal Rumble. Ok, allez, c'est parti, pourquoi pas. Et là, il revient, il est en mode babyface, il harangue la foule, il chauffe la foule, il a la pop de la soirée. Et il va aller à Fastlane. Peut-être en mode babyface ou quelque chose qui s'y rapproche. Et Dolph Ziggler est toujours là, quoi. Il est toujours là, il fait toujours la même chose et ça marche toujours.
Mmh. Il était interviewé par, je crois que c'était Edge et Christian dans leur podcast, où il avait expliqué qu'il y a quand même un truc qui était important pour lui, c'est qu'il reste crédible. Alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on utilise ce terme-là.
Alors on fera un hors-série en trois parties sur la crédibilité dans le catch.
Crédibilité, voilà, parce qu'il faut qu'il reste une menace où les gens puissent penser qu'effectivement il peut gagner contre son opposant, décrocher un titre, etc.
Le fameux gatekeeper.
Voilà, exactement, puisqu'il est là toujours pour mettre en valeur les autres, hein, au final, Dolph Ziggler, mais il ne peut pas mettre en valeur les autres s'il passe pour une serpillière tout le temps.
C'est ça.
Donc là, ils ont encore fait tout un effet de manche, toute une scénarisation pour le remettre dans le placé, dans la title picture, et nous faire croire qu'il peut y arriver. Et, visiblement, ça fonctionne, hein, puisque la foule est à fond derrière lui. On est à deux doigts de croire que Dolph Ziggler va être dans le main event de WrestleMania, puisqu'il nous dit qu'il veut faire le main event de WrestleMania. C'est la seule chose qui lui a échappé tout au long de sa carrière. Il a toutes les cartes en main pour y arriver, hein, si on regarde bien. Il a le main event ce soir. C'est de nouveau un favori des foules. Donc c'est plutôt bien joué. Moi, le seul truc que je regrette, c'est le traitement fait à la ceinture US, qui laisse un arrière-goût un petit peu pénible, parce que c'est si on fait pas ça, on peut pas avoir un mec qui abandonne la ceinture comme ça et puis qui en a vraiment rien à foutre. Elle a plus aucune valeur, cette ceinture. Donc ça c'est vraiment une grosse erreur scénaristique, je pense.
Ouais.
Après, pour le reste, finalement, ce départ, ce retour, ça fonctionne plutôt bien. Bon, on était quand même un peu perplexe sur son retour en 30e au Rumble. Il se fait éjecter juste avant qu'il y ait une belle confrontation entre les six derniers pour montrer qui c'est les patrons. Et puis il élimine personne, je crois.
Le problème, c'est Dolph Ziggler par Dolph Ziggler, avec juste Dolph Ziggler qui fait son Dolph Ziggler, ça marchera toujours. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Mais dès qu'effectivement les scénaristes commencent un peu à mettre leur nez dedans, avec cette histoire dont tu as parlé de ceinture qui laisse tomber, qui l'abandonne, et de 30e position, tu fais what? Enfin, pourquoi? Enfin, ça fonctionne pas.
Et surtout, visible. Puis on n'a toujours pas de réponse à tout ça, puisque ça n'a servi à rien, à part dévaloriser la ceinture US et puis faire un non-événement à la 30e place du Rumble.
À la limite, s'il avait avoué qu'il avait utilisé le titre US comme monnaie d'échange pour avoir se garantir une 30e place. Mais avec une figure d'autorité qui aurait vraiment pu accepter ce genre de deal, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais là, non, effectivement, ça n'a jamais été expliqué.
Qui reviennent avec une autre ceinture US ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais c'est un peu ce que je reproche depuis des mois à SmackDown, c'est que les scénaristes, ils font vraiment du boulot pas terrible, avec vraiment des grosses erreurs scénaristiques, mais derrière, les mecs du roster, les catcheurs ont tellement de talent qu'ils arrivent à chaque fois sauver la situation. On voit la construction vers Fastlane, elle est pas terrible, mais je suis quasiment certain qu'on aura de beaux matchs à Fastlane.
Ouais, c'est ce qu'on dit sur le chat là. Rio Sanada, un très joli nom d'ailleurs, qui dit effectivement les multi-men Fastlane et Mission Chamber, c'est là pour garder un minimum d'incertitude pour WrestleMania. C'est vrai que tous ces pay-per-view où grosso modo tout le monde a sa chance, on fait des matchs à 6, que le titre peut être perdu 3 semaines avant le WrestleMania, ça contribue à conserver un suspense et du coup l'inconvénient souvent, c'est que c'est le scénario qui en pâtit, puisqu'on pour y arriver à ces main events où t'as 4, 5, 6 gars, on fait, comme tu dis, des effets de manche un petit peu difficiles à gober, quoi.
Ouais. Et là, on doit quand même faire un double turn de deux personnages qui sont les deux plus gros, enfin deux des plus gros heels du roster, mais c'est pas bien grave parce qu'il y a déjà deux autres gros heels qui sont là en face, donc ça fonctionne quand même. Mais c'est grâce, moi je trouve que c'est vraiment grâce aux catcheurs et leurs prestations que ça reste, tout ça reste regardable. Mais comme d'habitude, ils partent avec un bon handicap au départ. Et puis on sent aussi la surenchère entre l'Elimination Chamber et le main event là de Fastlane. On sera à 7, je crois, pour l'Elimination Chamber.
J'ai vu ça.
Un départ en triple threat.
J'avais pas encore regardé le Raw et pas encore écouté le catch-up Raw, mais effectivement, j'ai compté, j'ai mis sur pause la vie. Je me suis dit, putain, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qu'est-ce que c'est ce bordel?
On fait des premières, là on crée l'histoire, il y aura le premier Elimination Chamber féminin et puis le premier Elimination Chamber à 7, et donc là on est à 5 ou 6 pour le...
5 là.
5, ouais. Fatal 5-Way, d'habitude on s'arrête à 4. On s'est dit là, avant Mania, on va faire deux pay-per-view avec beaucoup de monde dans le main event. Au moins ça va nous assurer du grand spectacle, hein, parce qu'ils sont quand même passés maîtres dans l'art de faire des multi-man tag team match. Mais en attendant, AJ Styles est absent, Nakamura on l'a pas vu, les deux stars de WrestleMania, c'est un petit peu dommage. Pareil, ils partent avec un handicap, mais ils ont même pas besoin de builder le match, hein, il se construit tout seul celui-là. Mais tout le talent du roster de SmackDown pour sauver le travail un peu médiocre des scénaristes.
C'est ça, hein, c'est un peu une conclusion qu'on peut avoir sur ces dernières semaines, si ce n'est même ces derniers mois, c'est que les catcheurs sauvent le cul des scénaristes à chaque fois. Là, on l'a bien vu hein, dans ce main event qui était vraiment un super match, hein, Sami Zayn versus Dolph Ziggler. C'était un très beau main event. Et on
On
est.
n'a pas trop étendu là-dessus, mais effectivement, encore une fois, très beau catch. Hein.
Ouais, ça claquait des gros near falls, des beaux comptes, une belle alchimie entre les deux. Sami Zayn qui s'est retrouvé hein, depuis son alliance avec son meilleur ami. Du coup, ouais, les catcheurs, voilà, venus sauver les scénaristes et les bookers. C'est bon, pourquoi pas. On aimerait que tout ça s'émule et que les deux travaillent main dans la main pour le meilleur des
Voilà,
mondes, mais.
bah, comme on l'a un peu ailleurs dans les autres shows de la WWE, mais à SmackDown en ce moment, c'est délicat. Hein. Il y a eu un gros retournement à 205 Live qui devient maintenant une émission, moi je trouve qu'il faut regarder, qui est vraiment très très bien. 45 minutes de pur plaisir. Maintenant, j'aimerais bien qu'on applique ça aussi à SmackDown.
Bah, il suffit que Vince McMahon lâche un peu les clés au fur et à mesure. Plus le kick-off de la XFL approche, là, de sa ligue de football va approcher, plus on va peut-être avoir ce genre d'amélioration à
On
faire
s'en
à
prend des
suivre.
mains d'avance.
Ouais. Bon, allez, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien. Ringside, nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Alors, mon top, je vais les donner aux participants du main event, du fil rouge du show, que ce soit Kevin Owens, Sami Zayn ou Baron ou Ziggler. Ils ont fait vraiment un bon boulot pour nous vendre toute cette histoire. Donc, chapeau à eux. Et pour le flop, je vais le donner à l'absence de Rousseff. Et puis même de toutes les absences, l'absence de Nakamura, l'absence d'AJ Styles, on a envie de les voir quand même ces mecs-là, et puis on a envie de voir une vraie rivalité avec Rusev, bon, pas forcément un run avec un titre ou quoi que ce soit, mais qu'on le voit quand même dans une rivalité qui serve à quelque chose. C'est un peu dommage de se passer du mec qui est le plus over dans le roster. Et pour la note, je vais mettre un 2,5. Ça s'est laissé regarder, mais comme je dis, voilà, on part avec un scénario qui est quand même bien alambiqué, qui est pas très enthousiasmant, et c'est les talents qui font le boulot, quoi.
Effectivement, pour moi, alors dans mon top, j'ai mis une scène très spécifique, c'est quand le baron riposte, il se fait passer à tabac, il riposte, il se laisse pas faire, et puis aussi évidemment Dolph Ziggler qui sauve la petite fille, ça
Ouais, ah
restera
oui.
un des moments les plus marquants de cet épisode. Et mon flop, je le donne à Bobby Roode qui doit lécher le cul de Randy Orton et
Ah
John
oui,
Cena qui est
bravo.
même pas là. Il y avait une autre façon, je pense, de le faire. Peut-être même une façon un peu plus vicieuse. Toi, si au moins il avait rajouté un peu de vice dans le fait de dire ouais, voilà, effectivement t'es un grand champion, Legacy, mais maintenant c'est mon tour. Enfin voilà, je sais pas. Là, c'était vraiment
Alors que Randy Orton, c'est le pire des traîtres. Je veux dire, ça sert à rien d'essayer de faire pote avec lui. C'est le mec
Ouais,
qui va te trahir 2 secondes après.
c'est ça. Le
Il
mec, il
passe
lui a
vraiment
placé
pour
des
un
RKO
abruti,
par
quoi.
derrière, quoi. Il
Voilà.
vient s'en plaindre en même temps, il lui fait la lèche, quoi. What the fuck? Ça, c'était assez regrettable. Et ma note, écoute, je vais mettre un 3,25. Une excellente note qui est surtout due à, justement, ce fil rouge. Si on prend l'épisode juste. Voilà, en lui-même, je trouvais l'écriture plutôt bonne, même très bonne, avec ce double main event, enfin ces deux matchs qui se sont créés suite, enfin après ce qui s'est passé en introduction, et ils nous ont fait du bon catch. C'est un peu rare en ce moment aussi à SmackDown malheureusement, entre les cornes avec un super main event et en plus là cette espèce de face turn bizarroïde, donc t'es vraiment dans une espèce de réalité alternative là. On pourrait dire, et si le Baron et Dolph Ziggler étaient face, qu'est-ce qui se passerait? Et voilà, ben ça, on a eu la réponse ce soir. Je vous remercie encore, évidemment, à tous ceux qui sont présents sur le chat lors du live. On vous fait un gros big up. Catch Up, c'est votre podcast hein, qui résume et analyse les shows de la WWE. Catch Up Pro, Catch Up SmackDown, le week-end on a du NXT tout seul, du Talking Catch, plus les pay-per-view. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur iTunes et PodCloud pour l'audio, mais également sur YouTube pour la vidéo Catch-up CDC, pardon, j'en perds mon latin, sur Twitter et Facebook, c'est également Catch-up CDC. N'hésitez pas à commenter sur la vidéo, partagez votre top et votre note et votre flop également. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous attendez là de ce Fastlane, de ce main event? On va se retrouver avec 5 participants. Quels sont un petit peu vos pronostics à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes convaincu par cette espèce de face turn étrange de Dolph Ziggler et du Baron? On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau supplément SmackDown, alors que Ringside a quitté déjà les studios. Mais le revoilà, super magnifique. J'allais dire au revoir Ringside.
Ah,
j'ai dit que t'avais quitté les studios. Alors j'ai assuré hein, sur la outro. Ne t'inquiète pas, t'as plus qu'à dire au revoir et à te barrer.
Ok, super. Merci les amis, merci à tout le monde hein, qui était dans le chat.
Ouais.
Désolé hein, pour ce petit interlude, mais encore un problème à la porte des studios.
Ah, c'est vrai, il faudrait qu'on engage une personne qui serait chargée de laisser entrer ou ne pas entrer.
Exactement.
Il ne faut pas que ce soit un employé de la WWE, sinon tout le monde entrerait avec sa musique, donc ce ne serait pas forcément très agréable. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine, on vous souhaite une bonne semaine de catch. Salut, salut.
Ciao, ciao.
Mais qu'est-ce que c'est? Hey, le gang des bonnets!